Parlement européen entend, au nom de ce qui s'est passé, c'est-à-dire être la voix du peuple européen, davantage compter qu'avant. Et puis du côté du Conseil européen, ben, le Conseil européen, il a fait l'expérience depuis le début de la grande crise que son rôle n'avait cessé de se renforcer. Et l'un des deux enseignements de cette crise économique, d'une part, un rôle renforcé de l'intergouvernemental, ce qu'on appelle dans les études européennes l'intergouvernemental, c'est-à-dire le fait que la politique européenne serait essentiellement conduite par les arrangements, les négociations, les accords entre les grands acteurs que seraient les chefs d'État et de gouvernement. Et dans le même temps, on a vu que certaines institutions transnationales de l'Europe, la Commission européenne en particulier, avaient vu également leur rôle se renforcer. Le contrôle de la Commission européenne sur les budgets des États-nations s'est renforcé pendant la crise économique. Et donc le Parlement européen, qui semble un tout petit peu absent de ce tableau, on comprend que sans doute il entend peser quand même de tout son poids sur la désignation du président de la Commission européenne.
Alors en laissant croire que le futur président de la Commission européenne serait issu en fait du résultat des élections du Parlement, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de malentendu entre d'une part les Européens et d'autre part les chefs d'État et de gouvernement ?
C'est précisément dans un premier temps pour diminuer et atténuer le malentendu démocratique entre les Européens et le Parlement européen, que cette désignation du président de la Commission européenne en tenant compte du résultat des élections européennes a été décidée. Malheureusement, on a eu au bout de course le populisme plutôt que la participation massive des citoyens européens. Donc c'était a priori une bonne idée que celle de vouloir personnaliser autour de deux candidats et de politiser autour de leur programme les élections européennes. Et je ne dirais pas qu'on a trompé ou que l'on a induit en erreur les peuples européens. Par contre, c'est vrai qu'on leur a pas bien expliqué que cette nomination, en tenant compte du résultat des élections européennes, elle était là depuis le traité de Maastricht. Et puis, est-ce que c'est bien un enjeu que beaucoup d'Européens peuvent saisir ? C'est relativement technique, c'est relativement compliqué. Et je ne pense pas que les Européens qui ont boudé les urnes ou qui, au contraire, ont voté dans une direction eurosceptique, eurocritique, aient été beaucoup motivés par cet enjeu de la nomination du président de la Commission européenne.
Alors Herman Van Rompuy a été chargé de trouver donc le candidat parfait, celui qui puisse à la fois satisfaire le Parlement et le Conseil. Est-ce qu'on connaît sa méthode ? Est-ce qu'on connaît véritablement sa feuille de route ?
Pas vraiment, au fond, il n'est pas ressorti du Conseil européen qui a suivi les élections européennes des choses extrêmement claires. Il y a même eu une certaine confusion. La feuille de route d'Herman Van Rompuy, c'est effectivement sur 3 ou 4 dossiers, en particulier la question de l'emploi et de la relance économique, mais aussi la question de la politique étrangère de l'Union européenne, mais aussi celle des droits des consommateurs européens, donc sur 3 ou 4 dossiers, d'avancer ces conversations avec les candidats déclarés ou des candidats potentiels qui ne se sont pas déclarés. Donc je pense que ça va être la méthode de travail de Herman Van Rompuy qui va être cette méthode très européenne de palabres, de discussions et de recherche de consensus.